Reportage, débat, interview, le magazine du samedi, le rendez-vous hebdomadaire de la rédaction de Cocktail FM, le samedi à 9h30 sur Cocktail FM, la radio des Hauts-de-Vosges.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine du samedi, un second volet consacré au Festival international du film fantastique de Gérard May. Mais nous déborderons un peu de ce thème, nous irons même plus loin à l'image des tables rondes et colloques qui ont été organisées pendant ce festival. Le choix de la rédaction aujourd'hui, c'est de vous parler de schizophrénie de cinéma et réalité, ou l'image d'un monde biseauté. Nous vous proposons d'aller au-delà de l'écran et des apparences pour mieux comprendre ce que sont ces pathologies. Mais d'abord, une définition s'impose. Un peu d'étymologie, Émilie Michel, bonjour.
Bonjour Jean-Christophe. Et oui, la schizophrénie se découpe en plusieurs parties. Tout d'abord, schizo, du grec schizen, signifiant fractionnement, et de phrène, désignant l'esprit. C'est donc une coupure de l'esprit, pas au sens du double personnalité comme on l'entend parfois, mais au sens d'une perte de contact avec la réalité, ou d'un point de vue psychanalytique, d'un conflit entre le moi et la réalité. C'est une pathologie psychiatrique souvent chronique qui survient plutôt à l'adolescence ou au début de l'âge adulte.
À l'adolescence, on la qualifie d'hébéphrénie. La littérature et le cinéma l'ont associé aux pires excès, et pourtant la schizophrénie ne saurait se résumer aux seules hallucinations et aux délires qu'elle occasionne. Cette scission de l'esprit, dont vous parlez Émilie Michel, est avant tout source de souffrance et d'exclusion pour ceux qu'elle atteint. C'est ce que nous verrons avec Daniel Crochetet, le président de l'UNAFAM, l'Union Nationale des Familles de Malades de Schizophrénie. Une maladie qui fascine surtout parce qu'elle ouvre sur un monde de fantasmes, mais qui reste bel et bien la réalité du malade, car il perçoit des choses qui n'existent pas et se convainc de leur réalité.
En plus de visions, il peut s'agir par exemple de voix souvent méprisantes ou injurieuses, de sensations corporelles ou olfactives, des voix auxquelles il peut se sentir obligé de répondre ou d'obéir, engendrant ainsi une interaction avec un interlocuteur imaginaire.
Et c'est bien de là que vient la confusion dans les représentations faites de la schizophrénie entre réalité de cette scission de l'esprit, profonde blessure de l'âme, et la double personnalité qui nous fait frissonner dans le cinéma ou la littérature de genre. Et pour mieux comprendre cet attrait pour la folie, Émilie Michel, vous avez interrogé un spécialiste.
Il s'agit du docteur Samuel Lepastier, psychiatre et psychanalyste au CHU de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Un spécialiste des maladies mentales que j'ai rencontré à l'occasion d'un colloque lors du festival du film fantastique de Gérard May.
Schizophrénie, paranoïa, claustrophobie est un rassemblement de mouvements de peur, d'inquiétude devant l'autre, et en tout cas les personnes qui présentent ces états souffrent beaucoup. Ce qui est intéressant dans le thème retenu, ces états de souffrance deviennent à travers le film, à travers la création, des sources de plaisir pour le spectateur. Et du reste, à ce moment-là, nous ne sommes plus du tout dans une réalité clinique, mais bien dans un monde où nous cherchons à apprivoiser nos cauchemars, à entrer en contact avec nos fantasmes. On a dit d'ailleurs que le sommeil de la raison engendre des monstres. Il est extrêmement important que nous puissions, à certains moments de notre vie, entrer en contact avec notre inconscient. Et c'est vrai que le cinéma peut nous y aider, plutôt que d'imaginer en permanence que le mal vient toujours de l'extérieur. Et c'est bien en reconnaissant la part obscure de nous-mêmes, en l'apprivoisant et en, au fond, la transformant, que nous pouvons être plus tolérants à l'égard des autres, alors que si nous pensons que nous sommes irréprochables et que le mal vient des autres, à ce moment-là, nous risquons d'avoir des suites de rejet, de suspicion et même d'agression, et à ce moment-là, nous deviendrons réellement des paranoïaques.
Même une personne qui n'est ni malade mentale ni psychotique a un rapport particulier avec son inconscient, notamment dans le rêve, là où la réalité s'effondre dans l'inconscient.
Oui, tous les soirs, nous faisons l'expérience de la folie par le monde du rêve. La logique du rêve n'est pas celle de la vie diurne, c'est une logique de l'inconscient qui est proche de certaines formes de folie. Le cinéma nous permet de retrouver cette logique du rêve et elle nous permet de nous familiariser avec notre inconscient et de ce fait-là d'apparaître comme ensuite plus sûr de nous, plus tolérant d'ailleurs à l'égard de la folie des autres, plutôt que de penser que les fous, c'est toujours les autres et qu'il faille les rejeter. Il est extrêmement important que de temps en temps nous fassions des plongées au fond de nous-mêmes pour reconnaître, accepter, développer d'ailleurs dans certaines limites, la part de folie que nous avons tous.
Ainsi donc, le docteur Samuel Lepasté insiste sur la nécessité de la représentation de la folie, de cette schizophrénie qui nous habite tous un peu au fond, au tréfonds de nos nuits, dans le plus noir de notre âme. Une projection qui trouve donc sa nécessité, quand bien même elle est caricaturale.
Une caricature qui confond parfois schizophrène ou malade mental et serial killer. Réaction de Daniel Crochet, le président de l'UNAFAM, union qui rassemble les familles de malades de la schizophrénie.
On ne va pas comparer Fourniret ou comparer Émile Louis aux schizophrènes moyens, on va dire, puisque ça n'a rien à voir. Alors je crois que le psychiatre l'a bien expliqué, hein, quand on est la schizophrénie, on est sur une maladie, quand on parle de folie, de perversion, on est sur totalement autre chose, on est sur des troubles de la personnalité et du comportement, qui là ont une incidence, une origine beaucoup plus sociale. Et là, il y a bien sûr le milieu familial, mais je pense que pour parler de l'Amérique et des armes, bah, c'est culturel. Dans quel autre pays que les États-Unis où on voit de manière très régulière effectivement des séances de meurtre où un jeune, généralement c'est des jeunes, arrive avec un fusil et tire un peu sur tout ce qui bouge dans une université ou ailleurs.
Là aussi, il peut y avoir confusion entre serial killer et mass murder, autrement dit tueur en série et tueur de masse. Pour autant, ces tueurs, dans l'un et l'autre cas, ne sont effectivement pas spécialement schizophrènes, quoique un peu paranoïaques. Et pour mieux comprendre de quoi il s'agit, autant s'adresser au meilleur spécialiste mondial des serial killers. Il s'agit de Stéphane Bourgoin, et vous allez l'entendre, rien ne le prédestinait à cette carrière.
C'est dans un instant, dans le Mag du samedi, sur Cocktail FM.
Hollow gold, her lips sweet surprise, her hands are never cold, she's got Betty Davis eyes, she'll turn her music on you, you won't have to think twice, she's pure as New York snow, she got Betty Davis eyes. She'll tease you, she'll unease you, all the better just to please you. She's precocious and she knows just what it takes to make a pro blush. She got Greta Garbo standoff size. She's got Betty Davis eyes. She'll let you take her home, it whets her appetite. She'll lay you on the throne. She got Betty Davis eyes. She'll take a tumble on you, roll you like you were dice, until you come out blue. She's got Betty Davis eyes. She'll expose you when she snows you, off your feet with the crumbs she throws you. She's ferocious and she knows just what it takes to make it pro blush. All the boys think she's a spy. She's got Betty Davis eyes. She'll tease you, she'll unease you, all the better just to please you. She's precocious and she knows just what it takes to make it pro blush. All the boys think she's a spy. She's got Betty Davis eyes. She'll unease you just to please you.
she's got better days besides. She'll expose you when she snows you.
Le magazine du samedi sur Cocktail FM, la radio des Hauts-de-Vosges.
Stéphane Bourgoin, je ne sais pas comment vous présenter. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes l'un des spécialistes mondiaux des criminels en série, serial killers ?
Par la force des choses, oui. Déjà par le nombre de tueurs et de tueuses en série que j'ai rencontrés, puisque depuis 30 ans, j'en ai maintenant interrogé plus de 70 différents. Et donc contrairement à des policiers qui peut-être une fois dans leur carrière vont être confrontés à une enquête de tueur en série, moi je suis plutôt un observateur, un vulgarisateur de ce phénomène, où j'essaye d'accumuler des connaissances pour mieux faire comprendre la psychologie particulière de ce type de criminel, parce qu'en règle générale, l'assassin et sa victime ne se connaissent pas. Donc le mobile, il faut aller le chercher dans la tête des tueurs en série. Et pour pouvoir, par exemple, développer des nouveaux logiciels et bases de données informatiques qui existent en France, on trouve très utile de pouvoir les interroger sur leur comportement avant, pendant et après le crime.
Comment en êtes-vous arrivé à cette spécialité, somme toute, extrêmement particulière et très rare ?
Alors, si je m'intéresse aux tueurs en série, c'est parce qu'en 1976, ma compagne a été violée et assassinée par un tueur en série. Je l'ai appris 2 ans après les faits, donc en 1978. Et à ce moment-là, on ne parlait pas du tout de concept de tueur en série. Et le mot « serial killer » n'existait pas encore. J'ai voulu chercher des réponses que je n'ai pas obtenues dans les aveux, les interrogatoires de ce tueur. Et donc j'ai décidé de mener mes propres recherches à cette époque. Et je me suis dit que la meilleure façon de pouvoir comprendre, c'était d'aller à la rencontre de ce type de criminel.
30 ans plus tard, ces réponses que vous vous êtes mises à chercher en 1978, les avez-vous obtenues ?
J'ai obtenu des réponses sur le pourquoi il y a répétition des crimes, pourquoi ils vont agir de telle ou telle manière, pourquoi il va y avoir un rituel particulier sur la scène de crime. Mais pour moi, il reste un mystère absolu, c'est le pourquoi du premier passage à l'acte. Vous avez des milliers d'enfants qui sont victimes d'abus sexuels, physiques, psychologiques, qui ne deviennent pas des tueurs en série, alors qu'inversement, chez la plupart des tueurs en série, vous avez ce type de maltraitance dans leur enfance. Il y a notamment ce cas qui fait l'objet d'une étude actuellement aux États-Unis, d'authentiques jumeaux qui ont subi des maltraitances abominables, qui ne se sont jamais quittés pendant 18 ans. L'un est devenu tueur en série, l'autre non.
Et face à ce spécialiste, il est bien tentant pour le journaliste que je suis de poser la question du portrait robot du tueur en série.
Alors d'abord, c'est essentiellement un homme, dans 85% des cas. La plupart du temps, l'assassin et sa victime ne se connaissent pas. Ils ne vont pas utiliser d'armes à feu, alors que dans le monde, plus de 80% des homicides sont commis avec une arme à feu. Mais eux ont ce besoin de toute puissance et de contrôle de la victime. Donc ils vont vouloir approcher la victime pour exercer cette toute puissance et ce contrôle. Donc ça va être typiquement l'arme blanche, l'objet contondant, la strangulation qu'ils vont utiliser pour commettre le crime. Certains peuvent avoir des comportements sadiques, c'est-à-dire torturer des victimes pendant très longtemps, comme on le voit beaucoup dans le cinéma d'horreur notamment. Mais d'autres, tuer, ça va juste représenter l'acte de tuer, un plaisir pour eux, ou de violer. Donc il n'y a pas forcément toujours acte sadique, qui veut dire jouir de la douleur de sa victime. Et dans la plupart des cas, aussi dans 99% des cas, c'est très important, le tueur en série est responsable de ses actes. C'est quelqu'un qui ne souffre pas de maladie mentale. Ce n'est pas un tueur fou, ce n'est pas un tueur psychotique, c'est un psychopathe qui sait différencier le bien du mal au moment où il commet son crime, alors que la plupart du temps, au cinéma notamment, on les qualifie de tueurs fous. Ce qu'ils ne sont pas. Ils peuvent être des paranoïaques, hein, puisque le tueur en série s'estime toujours victime de la société, qui n'a pas été reconnu à sa juste valeur à l'école. Il n'est pas capable d'efforts, de suivre des ordres. Par exemple, typiquement, lorsqu'il s'engage dans l'armée ou dans la police, Il ne peut pas supporter qu'on lui donne des ordres. Il n'est pas carriériste, entre guillemets, autre que dans sa vie obsessionnelle de crime en série. Il y pense en permanence et c'est une activité qui lui prend quasiment tout son temps fantasmatique. La vie fantasmatique est beaucoup plus importante que la vie réelle.
Il y a eu un crime qui a été médiatisé et surtout très analysé, ce fameux crime alors en série et en masse finalement de Columbine aux États-Unis, sur lequel un certain Michael Moore s'est penché avec une contre-analyse plusieurs années plus tard. La polémique à l'époque a été justement le rôle du cinéma, des films qu'avait regardé ce jeune homme qui était passé à l'acte.
D'abord la tuerie de Columbine, comme toutes les tueries dans les écoles, les universités ou sur le lieu de travail, ne sont pas l'œuvre de tueur en série. C'est un tueur de masse, un mass murderer, qui eux sont des sortes de suicides extravertis. Des individus qui ont des tendances suicidaires, qui souffrent eux de troubles psychiatriques avérés depuis longtemps, qui ont envie de se suicider, mais qui veulent laisser une trace dans l'existence. Donc qui vont décider d'emporter le plus de victimes avec eux. Ils ne choisissent pas leurs victimes comme le tueur en série, peu importe l'identité, la race ou les spécificités des victimes. Ce qu'ils veulent, c'est en tuer le plus possible et laisser un testament. Autrefois, ça pouvait être un testament vidéo. Maintenant, on laisse un blog sur Internet ou une vidéo sur Internet, sur Facebook, comme on l'a vu pour le tueur de masse finlandais récemment, ou en Allemagne, ou encore pour Jared Lee Loeffner, qui avait laissé des vidéos sur YouTube, celui qui a tiré à Tucson sur la députée démocrate. Ce sont aussi des crimes d'imitation. Justement, la tuerie de Columbine a en quelque sorte cristallisé un petit peu le mode opératoire, c'est-à-dire aussi la façon de s'habiller de ces adolescents, puisqu'il s'agit de la plupart du temps d'adolescents isolés, souffrant de troubles profonds, qui vont toujours avoir tendance à s'habiller de noir, avoir un look gothique, à laisser des testaments vidéo. Et je pense qu'on pourrait lutter contre ce type de phénomène si les médias décidaient à l'avenir de ne plus jamais donner l'identité de ce mass murderer. Parce qu'ils ont cette soif de gloire et de laisser une trace dans l'histoire. Or si on décide de ne plus le publier à l'avenir, je pense que ça pourrait peut-être empêcher la commission d'autres actes similaires.
Cocktail FM, la radio des Hauts-de-Vosges.
Je sens des boules et des bangs agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. À pleurer les larmes d'un des bateaux que je t'avais donné. J'ai sur le bout de la langue ton prénom presque effacé. Tordu comme un boomerang, mon esprit l'a rejeté. De ma mémoire vers la brinque, ton amour m'ont épuisé. Je sens des boules et des bangs agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. Assommé comme de dingue, comme de fous alignés. Sache que ce cœur exsangue pourrait un jour s'arrêter. Si comme un boomerang tu ne reviens pas me chercher. Peu à peu je me déglingue, victime de ta cruauté. Je sens le boom et les bangs agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. À t'aimer comme une dingue, prête pour toi à me donner. Séducteur passé, moi garde ce boomerang. Il pourrait te faire payer toutes ces tortures de cinglé que tu m'as fait endurer. Je sens des boules de bang agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. C'est une histoire de dingue, une histoire d'être à pleurer. Son vacille tangue, elle est prête à chavirer sous les coups de boomerang. Des flashbacks sont brancher. Et si un jour je me flingue, c'est à toi que je le devrais. Je sens le bouillet des bangs, agiter mon cœur brisé. L'amour comme un boomerang me revient des jeux passés. Pleurer les larmes dingues d'un corps que je t'avais donné.
Le magazine du samedi, le samedi à 9h30 sur Cocktail FM, la radio des Hauts-de-Vosges.
Retour avec Stéphane Bourgois, spécialiste des tueurs en série, à qui Jean-Christophe Givors a posé la question du rôle des images violentes sur le comportement des serial killers.
Je ne pense pas qu'un film puisse avoir une influence directe sur des meurtres en série ou des mass murderers. Parce qu'après tout, vous êtes un spectateur passif pendant 1h30. Moi, je vois un plus grand danger, notamment dans les jeux vidéo violents, pour des personnalités d'adolescents fragiles, puisque là, vous êtes un participant actif. Et vous allez avoir, comme le disait le docteur Lepastier, cette répétition des images. Et vous, pour un adolescent fragile, ça peut quelquefois engendrer un passage à l'acte de jouer comme ça pendant 12, 14 heures, 16 heures, alors qu'un film, après tout, ne dure qu'1h30. Mais en même temps, vous avez aussi... Ce qui est très intéressant, moi qui ai interrogé plus de 70 tueurs en série, vous savez quel est le livre favori, leur livre de chevet pour la plupart d'entre eux? C'est la Bible. Or, la Bible ne peut pas être considérée au départ comme un livre extrêmement violent, bien qu'il y ait des passages extrêmement violents dans la Bible. Donc on a en quelque sorte ce paradoxe.
Si j'entends bien ce raisonnement, alors... On parle de la Bible, il y a quelque part une façon de se déifier, de se substituer à Dieu, d'exister et d'avoir droit de vie et de mort sur autrui. D'un autre côté, chez les mass murderers, vous disiez, c'est finalement une pulsion de mort pour trouver la gloire. Là aussi, il y a quelque chose de l'ordre du divin et du mythique, du mythologique, pardon, là-dedans.
Oui, parce que pour les tueurs en série, c'est moins l'acte sexuel que certains vont commettre, qui est important pour eux, que cette dimension de toute puissance et de contrôle sur la victime. Ça, c'est quelque chose qu'eux-mêmes me disent. J'ai souvenir justement de mon entretien avec Donald Harvey, qui a tué 87 personnes. Lui me disait c'était comme d'être sur une montagne russe, d'avoir cette excitation ou d'être au volant d'un bolide sans limitation de vitesse sur l'autoroute. Vous aviez une impression d'être tout puissant. Et il me disait ensuite, pour la première fois de mon existence, lorsque je tuais, j'étais en contrôle de ma propre vie et je n'avais pas l'impression d'être une victime.
Alors cette impression de toute puissance, c'est aussi finalement aller au-delà de ses limites, de ne plus en connaître. Est-ce que justement les réalisateurs de films fantastiques très, très violents, ça n'est pas aussi ça qu'ils proposent à leur public, quelque part peut-être comme une thérapie, à savoir ce dépassement des limites dont tout le monde sait que c'est complètement fou, il s'agit de latex, de peinture, et qui va permettre aux spectateurs justement peut-être de passer ses limites dans l'imaginaire en faisant bien la nuance avec la réalité.
Ah bah c'est vrai que le fantastique a toujours été confronté au franchissement de l'interdit. Il reste quand même malgré tout dans le cinéma d'horreur, peut-être encore un certain nombre de tabous à franchir, comme le disait Alexandre Aja tout à l'heure. Par rapport aux lectures de mes livres, ils n'auraient jamais osé montrer à l'écran certaines des déclarations ou certaines des scènes d'horreur ou de meurtre qui sont décrites dans mes livres.
Y a-t-il des films, des séries qui représentent de façon un peu fidèle l'état d'esprit d'une enquête et de ces personnages que sont ces tueurs en série?
Alors on parle beaucoup de séries comme Esprit Criminel ou Dexter, mais moi j'avoue que même si j'aime beaucoup Dexter, qui en plus est inspiré d'un vrai cas d'un policier de Miami, tueur en série, qui avait un rituel très particulier et avec lequel je suis en correspondance dans le couloir de la mort. J'ai une préférence pour des séries, notamment britanniques, qui je trouve touchent beaucoup plus près du réel. Je pense à une série avec l'acteur Robbie Coltrane qui s'appelle Cracker, d'un profiler qui a des problèmes d'obésité, d'alcoolisme, qui est un serial smoker et qui est professeur de psychologie à l'université de Liverpool. Je pense à cette série avec Hélène Mirren, qui a gagné l'Oscar pour The Queen de Stephen Frears, qui s'appelle Suspect numéro 1, Prime Suspect en Angleterre, qui est véritablement touche très très juste au point de vue enquête. Et puis cette série qu'on a vue sur Canal+, avec l'acteur Robson Green qui fait le Dr Hill dans La Fureur dans le sang, c'est des séries qui touchent très très juste. Une autre série encore britannique, La Part du Diable, avec le même Robson Green qui est remarquable, qui s'appelle Touching Evil.
Ma dernière question ira à l'avenir. La société, on l'a dit, violente, on nous parle de flambée de violence, d'autres disent au contraire, c'est en recul. Votre observation par rapport à ces serial killers qui émergent ou pas ?
De toute façon, c'est un phénomène universel et que nous connaissons aussi en France, puisque depuis 1999, donc depuis 10 ans maintenant, on a eu 99 cas différents de tueurs identifiés, mis en examen, jugé ou arrêté, ce qui représente quand même beaucoup pour un pays comme la France. Je dirais que, hélas, je pense que ce phénomène sera en augmentation, parce que même si la criminalité baisse au quotidien, les actes de violence gratuite, les actes de barbarie, on le voit dans les statistiques officielles, sont en augmentation exponentielle depuis une vingtaine d'années. Donc la violence devient une certaine forme de communication et de langage, d'où peuvent hélas émerger un certain nombre de tueurs en série. Il est vrai aussi que les médias en parlent plus, que les policiers et les gendarmes sont mieux équipés pour relier des crimes qui pouvaient paraître isolés par le passé, mais en même temps je pense qu'il y a une réelle augmentation de ce type de cas.
Stéphane Bourgoin, qui a publié en novembre Tueur chez Grasset, et le 6 janvier dernier un livre, Profileuse, une femme sur la trace des serial killers, aux éditions du Seuil. Et puis à venir, la sortie d'un coffret de 6 DVD dans la tête d'un tueur en série avec Stéphane Bourgoin. Des DVD qui ont la particularité de présenter intégralement les entretiens avec les serial killers sans montage.
Et à ce coffret est assortie une petite notice de 32 pages, notice explicative, document très intéressant pour les passionnés de policiers et aussi pour les professionnels, bien sûr. Quant au docteur Samuel Lepastier, on le retrouve régulièrement dans les colonnes de revues telles que Psychologie ou encore Le Monde ou bien L'Express. Enfin, sachez que si vous êtes concerné directement ou indirectement par la maladie psychique et en particulier par la schizophrénie, l'UNAFAM des Vosges tient ses permanences quasiment tous les jours de la semaine à la maison des associations à Épinal. Il y a également un site internet, unafam88.free. UNAFAM que nous retrouverons d'ailleurs pour un magazine qui sera consacré à la santé mentale le courant mars. La semaine prochaine, on se retrouve pour un tout autre sujet puisque nous parlerons des secours en montagne, une spécialité qui concerne les gendarmes du peloton de montagne mais aussi les pompiers. Reportage et exercice sur le terrain.
C'est la fin de ce magazine du samedi. Vous retrouvez dans quelques instants les informations internationales.
Nous vous souhaitons un très bon week-end. Au revoir Émilie, à bientôt.
Au revoir Jean-Christophe, à bientôt.